maintenant à vouloir dire que faut pas mettre tous les hommes dans le même panier, ça je comprends. Tout comme il ne faut pas mettre toutes les femmes dans le même panier. Mais ceux qui ont la force brute et qui peuvent aller jusqu'à l'extrême, et l'extrême c'est l'irréparable et c'est tuer une conjointe, ben c'est un homme. Et c'est ce qui arrive malheureusement trop souvent. Hein? Alors, dans un instant, il sera avec nous, Éric Lantier, et on va voir. On va voir. Avec lui, on a déjà regardé d'autres aspects de la question, entre autres l'éducation des jeunes hommes. C'est peut-être un problème, le fait que les élèves du primaire et les hommes et les jeunes, les hommes et les jeunes hommes ou les enfants de sexe mâle sont éduqués par des femmes. Il y a plus d'enseignantes que d'enseignants au primaire. Et le modèle qui est le modèle d'autorité, c'est encore une figure de femme. Après avoir laissé maman à l'école, à la maison, à l'école, mais c'est encore une femme. Et puis, on regarde la façon de se comporter des Québécois avec leurs femmes, avec leurs blondes, mais c'est comme si c'était encore le visage de maman. De sorte que quand maman dit « c'est assez, allez-vous-en », oh, ça ne va plus. Alors, avec nous, Éric Lantier, chroniqueur politique et social. Éric Lantier est avec nous. Bon après-midi, Éric Lantier.
Bon après-midi, M. Pierre.
C'est notre dernière de la saison, Éric.
Oui, monsieur.
Bon. Alors, on aura bien travaillé jusqu'à présent, mais pour la dernière, peut-être que Éric Lantier n'a pas choisi le bon sujet. Comment défendre les hommes? Dire qu'il faut avoir un regard compatissant pour les hommes. D'abord, est-ce qu'il faut absolument regarder ou du côté des hommes ou du côté des femmes? Est-ce qu'il ne faut pas regarder de manière circulaire, je l'ai dit tout à l'heure, et voir un monde qui a des difficultés, autant du côté des hommes que du côté des femmes, mais les difficultés touchent davantage les femmes dans notre société occidentale.
Ouais, ben, c'est ça le problème avec la pensée binaire, la pensée où est-ce que si c'est pas noir, c'est blanc. Moi, je dis toujours, si c'est pas noir, ça peut être jaune, ça
ouais.
peut être bleu.
Ouais, ça peut être gris.
Exact. Donc, c'est clair qu'on doit s'attarder aux souffrances qui sont infligées aux femmes et on ne doit pas dénigrer ça. Au contraire, on doit mettre de l'énergie. Mais ce n'est pas au détriment des hommes qui vivent des difficultés. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on voit ou lorsqu'on entend, lorsqu'on est conscient d'un problème, on met notre énergie dessus et on peut oublier. C'est comme un parent qui a deux enfants. Il y a plus de problématiques avec un, mais il oublie l'autre qui va bien. Et pendant ce temps-là, l'autre, eh bien, devient un enfant négligé. Et je pense que c'est ce qu'on vit au Québec. Et ce n'est pas pour rien que 3 hommes sur 4 vont, par exemple, vivre l'itinérance. Ben, pas 3 hommes sur 4. Sur 4 itinérants, il y a 3 hommes. Donc, le 3/4 des itinérants sont des hommes. Et ce sont des problématiques qu'on tend à oublier parce que les femmes ont des besoins réels, ici au Québec, ont des problématiques réelles. Mais on parle pas beaucoup des réelles problématiques que vivent la communauté masculine. Et c'est cette nuance-là que je voulais apporter aujourd'hui.
Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à regarder les problèmes des hommes. J'ai tendance à généraliser, quand on dit les problèmes des hommes, à mettre un grand H une fois pour toutes. Car les problèmes des hommes, c'est aussi les problèmes des femmes. Mais en plus, les femmes ont leurs problèmes qui sont spécifiques à elles. À elles. Et justement, dans le rapport homme-femme, hein, c'est des problèmes qui leur viennent dans ce rapport où elles ne gagneront pas et quelquefois elles gagneront la mort. Et trop souvent, malheureusement.
Ah ben, c'est clair que c'est pour ça que si si on tente de régler un problème, ça ne doit pas être au détriment de l'autre. Et si on doit se consacrer sur certains problèmes masculins, ça ne doit jamais être au détriment des problèmes féminins. Et moi, j'ai toujours dit, lorsqu'un homme est coupable de violence, lorsqu'un homme est coupable de ne pas avoir pris soin de sa conjointe, de son épouse, eh bien, il doit en payer les conséquences. Pour moi, ça, c'est sine qua non, c'est clair, net et précis. Et c'est pour ça que c'est important qu'on parle de la souffrance des femmes, c'est important qu'on parle des inégalités que peuvent vivre les femmes, mais n'oublions pas les hommes. C'est ça l'essence de mon discours.
Mais on ne saurait oublier les hommes, Eric. On ne saurait oublier les hommes, mais par contre, dans ce monde, et pas seulement au Québec, où le féminicide est vraiment très à la mode, si on entend les manifestations qui ont lieu à Paris ou en France, n'est-ce pas, de plus en plus de femmes se font tuer par leur conjoint. Alors, Eric, ça, là, la vie, comme on le sait, là, c'est le plus grand bien qu'on puisse posséder sur Terre, pas vrai? Alors, se faire enlever la vie par un conjoint, tout simplement parce que on lui dit à ce conjoint-là qu'on l'aime plus ou qu'on veut aller ailleurs, qu'on veut, et ça finit par un meurtre. Moi, j'ai de la difficulté avec ça.
Oui, moi aussi, j'ai de la difficulté avec ça, mais j'ai également de la difficulté avec les garçons qui finissent pas leur secondaire en 5 ans, lorsqu'il y a 13% moins de... Il y a 13% moins de filles... Pardon. Il y a 13% moins de garçons qui finissent leur secondaire à la fin en 5 ans. Ils sont plus nombreuses, les filles, qui vont terminer leur étude secondaire. Les décrocheurs sont nombreux chez les garçons. C'est pratiquement 25% des garçons sont des décrocheurs scolaires. Et ça, c'est un garçon sur 4. Ce qui veut dire, on a un problème avec les hommes, avec le genre masculin au Québec, et on peut pas se fermer les yeux là-dessus.
Non, mais tout à l'heure, et je pense qu'on a fait une émission déjà là-dessus, sur cette problématique-là, effectivement, on comprend que c'en est une problématique. Est-ce que l'école est adaptée pour nos jeunes garçons telle qu'elle est pensée aujourd'hui? Une école primaire, surtout, qui est enseignée majoritairement par des femmes, et on a vu que c'est un problème qu'il faut, comme société, que nous prenions au sérieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faut pas repenser cette façon d'enseigner les enfants? Je pense que ça doit avoir, ce n'est pas toute la raison, mais ça doit avoir quelque chose, le fait que, je dirais, 3 enseignants sur 4 sont des femmes?
C'est sûr qu'il y a une majorité de femmes dans le monde de l'éducation. Et c'est pour ça que comment je pourrais résumer mon discours, c'est que on devrait, au Québec, toujours dans une idée d'espérance, dans une vision du futur, on devrait mettre en valeur les besoins des autres. En d'autres mots, comment qu'on devrait nourrir la société québécoise, c'est en enseignant aux hommes à mettre en valeur l'élément précieux du monde féminin et à enseigner les femmes à mettre en valeur le monde précieux du monde masculin afin qu'on soit mutuellement en respect les uns avec les autres.
Mais il faut revenir à la base, littéralement, avant tout ça, revenir à la base. Une femme, c'est une femme. Elle n'est pas un homme, mais un homme, c'est un homme. Et il ne faudra pas s'organiser pour faire en sorte qu'il joue avec des poupées, qu'il soit en quelque sorte une femme aussi. Non, un homme, c'est un homme. Et puis nous avons des atouts différents. Et quand on met ces atouts-là ensemble, on se complète merveilleusement bien. Pas vrai?
Absolument. Évidemment, il y a des aspects qui sont caractérisés par le monde de la féminité, des aspects qui sont caractérisés par le monde de la masculinité. Et on est différent sur le plan physiologique. Notre cerveau est conçu, il est différent. Donc, la forme, la masse, le volume est différent d'une femme en règle générale entre les femmes et les hommes. On a des réactions différentes parce que, justement, on est conçu différemment.
Mais ce qu'on a tenté de faire ces dernières années, Eric, c'était de faire du petit gars une espèce de fille aussi, à jouer dans des jeux régulièrement ou autrefois réservés aux filles. On va voir les petits gars. En général, les gars, et puis moi, je trouvais qu'on était correct. Là, on jouait avec des camions. Hein? C'était des voitures, c'était dans ce sens-là qu'on allait, et les filles avec des poupées. Est-ce que le monde était tellement différent? Ou est-ce que le monde n'était pas bien à ce moment-là quand il y avait un père de famille qui avait ses responsabilités, qui était de pourvoir la maison, et la femme qui avait d'autres responsabilités? Aujourd'hui, je comprends, tout le monde est obligé de travailler parce qu'on se donne beaucoup plus de responsabilités. On se donne, bon, la société a changé, tout le monde travaille, oui, mais ça veut pas dire que un homme devient facilement une femme devient facilement un homme, non?
Mais c'est, vous touchez un point important, parce que pour qu'il y ait un respect de la différence, eh bien, c'est important que ce respect de la différence soit alimenté et soit mis en valeur. Et c'est là le problème, c'est que lorsque on veut que l'homme soit dominant, là, ça cause un problème. Et le même problème survient si on veut que ce soit la femme qui soit dominante. Il doit y avoir un respect mutuel et un désir de s'accepter, de se comprendre mutuellement. Et c'est là qu'est le grand défi de notre société, spécialement au Québec.
Absolument, parce que moi, j'ai bien aimé l'éducation que j'ai eue, à savoir dans une famille, un foyer, il y a deux adultes. N'est-ce pas? Il y a deux adultes, le père et la mère, qui représentent deux adultes, et puis, ils se doivent respect mutuel. Respect mutuel, et c'est non plus quelque chose de très bien de faire en sorte que ce soit le père qui représente la figure de bad cop, là, et la mère qui est le bon cop. Hein? C'est comme, je vais le dire à ton père, je vais le dire à ton père. Mais pourquoi? Ouais. Fais ce qu'il faut, et puis papa peut être aussi ferme, mais aussi bon avec ses enfants, tout comme la mère peut-être doit être aussi ferme, mais aussi bonne avec ses enfants. C'est dans l'harmonie qu'on doit élever nos enfants pour en faire des citoyens qui savent qu'ils sont égaux et qu'ils se traitent avec respect mutuel plus tard. Éric Lantier,
oui.
La dernière pour cette année 2019, et je vous souhaite ce qu'il y a. Évidemment, entre deux, nous allons nous parler pour faire une émission spéciale au téléphone encore une fois. Les meilleurs événements de l'année, n'est-ce pas? Mais on se parle au téléphone, ça ne sera pas du direct. Et puis, quand même, le meilleur pour 2020. Et puis, les remerciements de la radio et qui apprécie énormément le travail de tous et chacun, mais particulièrement de la flexibilité de notre Éric Lantier, qui nous a permis dans les coulisses de faire tellement et tellement de bons coups. Merci Éric Lantier, merci.
Ben, merci à vous. C'est toujours un plaisir de collaborer et je pense que le fait qu'on puisse échanger, discuter, débattre ensemble, je suis convaincu que ça forge la pensée des gens et ça amène les gens à pousser plus loin leur réflexion. Et moi, je suis heureux de pouvoir collaborer avec vous et avec toute l'équipe de CPAM et de CGMS.
Et ce qui est intéressant, ça veut dire que Eric et moi, nous n'avons pas été à l'école ensemble. Nous ne sommes pas de la même génération. Nous n'avons pas élevé les chevaux ensemble. On s'est même pas rencontré une seule fois personne à personne en direct. On s'est parlé au téléphone et puis voilà, c'est comme si nous étions de très bons amis. Lui, il est blanc-brun et puis moi, je suis noir foncé. Et ben, voilà toutes les différences. Et pourtant, on s'entend, on se respecte, Eric. Pourquoi que le monde peut vraiment changer dans le bon sens? Bonne et heureuse année au nom de CJMS, au nom de CJWI, Eric Lantier. On espère se retrouver en santé en 2020.
Je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à vous et à toute l'équipe également.
Merci Eric Lantier. Eric Lantier, chroniqueur politique et chroniqueur social. On s'en va à la pause commerciale. De l'autre côté, Jean-Emmanuel Lapierre sera avec nous.